On va commencer. Yann Tanvez, qui est sur ce panel, va certainement nous rejoindre. Le temps que tout le monde s'installe, peut-être Rémi, peux-tu faire une petite présentation de tes différents intervenants. Cette session, elle est donc dans la lignée des discussions qu'on a eues tout à l'heure sur les méthodologies d'impact. Elle pose la question des méthodologies alternatives à celle d'Esther Dufaux, grosso modo, hein, caricaturons un tout petit peu. Donc il en existe certaines, dont on sait qu'elles sont très coûteuses, pour les projets qui sont décentralisés et pour les projets isolés. Une question est ouverte et auquel la communauté, dans son ensemble, que ce soit les praticiens ou les académiques, aimeraient bien répondre, c'est est-ce qu'il existe des méthodologies alternatives qui ont l'avantage d'avoir une forme de robustesse suffisante, mais surtout d'être beaucoup moins coûteuse, plus légère et facilement déployable pour ce type de projet. Donc, c'est un peu l'esprit de cette session. Rémi, peut-être que pendant que les gens arrivent, tu peux présenter tes intervenants.
Oui, merci. Je pense que, dans la lignée de ce que vient de dire Christophe, donc bonjour à tous déjà, je suis Rémi Basilier, professeur d'économie du développement à l'université Panthéon-Sorbonne. Je pense que, et c'est ce qu'on a vu dans les différentes autres sessions jusqu'à présent, il y a cet enjeu lié à l'évaluation, qui vient de différents acteurs, des praticiens, des financeurs, des chercheurs, avec des fois des problèmes aussi de compréhension ou des problèmes de vocabulaire ou de méthodologie ici qui peuvent être différentes en fonction des enjeux et des besoins de chacun. Donc aussi l'objectif de cette session est d'essayer d'avancer ensemble sur une meilleure compréhension des méthodes de chacun et de comprendre aussi en fonction des besoins comment peut-on aussi développer des outils adaptés avec une temporalité qui correspond effectivement aux besoins entre les différents acteurs. Et donc dans cette table ronde, je pense que c'est une très grande opportunité d'avoir différents intervenants venant de différentes institutions avec aussi du coup des approches qui vont être très différentes avec des praticiens, des chercheurs, des gens qui travaillent dans des centres de recherche, dans des universités ou dans des organisations internationales avec des objectifs ici de financement. Donc cette question de l'évaluation sera centrale dans cette session et du coup en prenant l'idée, c'est avec cette différentes approches, je vais vous proposer d'organiser cette session en deux temps. Dans un premier temps, nous aurons du coup une première salle d'intervention de trois intervenants qui nous expliqueront quelles sont leurs visions de l'évaluation, quelles sont leurs différentes pratiques et ou leurs différents besoins, avec d'une part une ONG, donc Électricité sans frontières, avec Jérémy, puis un représentant de quelqu'un, donc Yann, qui travaille dans une organisation internationale, AIFC, de World Bank, puis 60 Decibels, avec Shanaz, qui interviendra ici du point de vue d'une agence d'évaluation d'impact privée. Voilà. Et puis dans un deuxième temps, nous aurons du coup deux chercheurs, un chercheur de l'IDRI, donc Henri Weizmann, qui s'intéressera plus du coup à l'impact environnemental et qui nous présentera cette approche en termes de trajectoire de décarbonisation. Puis Jean-Louis Arcan, du coup chercheur, professeur à l'université, qui présentera, qui pourra réagir aussi aux différentes interventions en présentant quelles sont les approches d'évaluation d'un point de vue ici scientifique et académique. Voilà pour les objectifs. Donc je vais d'abord passer la parole à Jérémy Gallet, donc électricien sans frontières, pardon, ESF, donc Jérémy qui est donc le délégué général de cette organisation. Merci.
Est-ce que ça marche? Ouais, super. Donc ce que je voulais vous présenter ce midi, c'est un exemple d'évaluation qu'on a mise en place. Donc notre président ce matin vous a parlé de ce qu'on était en train de faire avec la FRD sur notre projet Café Lumière à Madagascar. Et là, c'est une approche sur un autre projet qui est un peu plus modeste et qu'on espère un peu plus facilement généralisable. Donc c'est un projet qui s'appelle SISAM, Solution d'irrigation solaire améliorée, qu'on mène en ce moment dans trois pays, Togo, Bénin et Burkina Faso. Est-ce que ça marche? Ouais. Je vais aller très vite, voilà. Suite à la forte pression de Christophe. Donc juste pour vous rappeler, En deux mots, donc on est une ONG française, on intervient aujourd'hui dans une petite quarantaine de pays, on mène à peu près 129, entre 120 et 130 projets en même temps, avec des projets en quasi-totalité basés sur de l'électricité renouvelable, que ça soit du solaire ou de l'hydroélectricité quand c'est possible, avec souvent, maintenant dans la moitié de nos projets, un volet d'accès à l'eau, soit de l'accès à l'eau potable pour les populations, soit de l'accès à l'eau pour des exploitations agricoles. Voilà, je passe très vite. Donc, ça a été abordé tout à l'heure. Classiquement, dans les projets de développement, on fait mener des évaluations de nos projets. C'est quelque chose qui est demandé par les bailleurs des projets, notamment notre bailleur préféré qui est l'AFD. Et par ailleurs, ça nourrit notre démarche interne d'amélioration constante. Donc là, je rentre pas dans le détail, mais un certain nombre de rapports qui avaient été faits, qui sont trouvables sur Internet. En particulier, alors celui du milieu, le guide des bonnes pratiques, c'est quelque chose qu'on avait fait en capitalisant sur 20 ans de projets d'électrification pour voir quels sont les facteurs d'échec et les facteurs de réussite dans les projets. À chaque fois, donc l'idée là, c'est bien d'évaluer les résultats projet par projet, avec notamment des approches qualitatives qui permettent d'appréhender un certain nombre de solutions. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que il n'y a pas beaucoup encore d'évaluations quantitatives très robustes sur les impacts de l'électrification décentralisée. Il y a eu un peu de revue de littérature qui a été faite hier, je ne reviens pas dessus. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que dans le secteur globalement du développement, les RCT, les expérimentations aléatoires, ont permis des avancées majeures sur un certain nombre de sujets, que ça soit la santé ou l'éducation, sont aujourd'hui difficilement contournables, en tout cas quand on parle à certains partenaires ou certains bailleurs. C'est d'autant plus vrai depuis quelques semaines avec l'attribution du dernier prix Nobel. Mais ce qu'on sait, ça a été dit un petit peu ce matin, c'est que c'est des méthodes qui sont difficilement applicables dans le cadre de l'impact de l'électrification, en particulier l'électrification décentralisée. Un projet d'électrification, ça coûte cher. Ça coûte beaucoup plus cher de mettre en place un mini-réseau que de distribuer une moustiquaire. Donc c'est compliqué, d'un point de vue statistique, d'avoir des comparaisons entre des groupes de très grande taille. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais c'est compliqué. Le temps de mise en œuvre des projets est souvent aussi un peu long, à partir du moment où on est sur des mini-investissements. Fréquemment, on est plutôt sur plusieurs années pour pouvoir monter et déployer un projet, ce qui est aussi un obstacle pour mettre en place ce genre d'études. Et enfin, ça a été rapidement abordé tout à l'heure, je crois que c'est Kenneth qui en a parlé, sur les projets d'électrification, souvent on a en tête que ça permet de toucher beaucoup d'impacts très différents, que ça soit sur la sécurité des populations, sur la santé, sur l'éducation, sur le développement économique. Et si on espère pouvoir évaluer l'impact d'un projet sur tous ces impacts, ça conduit à des enquêtes très très longues. Et si l'enquête est très longue, ça veut dire que c'est très coûteux. Et ça veut dire que c'est très délicat, notamment d'interviewer les populations qui sont placées du côté des groupes témoins dans les projets. Donc face à ça, on s'est dit qu'il y avait trois pistes pour avancer. Alors il y a des cas où c'est possible quand même de mettre en place des expérimentations aléatoires, et donc là, je reviens pas dessus, on en a parlé un petit peu ce matin, c'est ce qu'on fait en ce moment avec la Ferdi sur notre projet à Madagascar. Mais c'est un peu cher, donc on peut pas le faire dans tous nos projets. Il y a quelque chose que nous on trouve très positif, c'est le fait de pouvoir faire des méta-analyses des résultats disponibles et de se dire, bah voilà, en collectant toutes les études qui sont disponibles, on pourra en retirer des résultats plus robustes. Donc ça, c'est, je reviens pas dessus non plus, la Ferdi en a très bien parlé hier, c'est l'exemple du projet COSMA. Ici, ce qu'on voulait vous montrer, c'est comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre une méthodologie d'enquête et d'évaluation qui est peut-être plus légère que ce qui est fait classiquement dans les grosses évaluations basées sur les méthodes de RCT, mais qui serait plus facilement généralisable. Donc là, c'est ce qu'on fait sur notre projet CISAM. En complément d'une évaluation classique, on a un évaluateur qui va faire une évaluation des impacts du projet avec une méthodologie. Alors là, on est sur une évaluation longitudinale, mais donc ça, c'est fait. Mais à côté, on aimerait bien compléter ça par une évaluation plus ambitieuse sur les impacts du projet sur le long terme. Alors, deux mots sur notre projet. Donc, c'est un projet qui vise à résoudre le problème de l'irrigation des petits maraîchages en zone sahélienne, donc au Burkina, au Togo et au Bénin. Un point important, c'est qu'ici, on n'apporte pas de l'électricité en tant que telle, on apporte des solutions de pompage solaire. pour des petits maraîchers. On fait ça avec des ONG locales, une burkinabée, une togolaise et une béninoise. On a un certain nombre de partenaires techniques, soit sur le volet pompage, soit sur le volet de microfinancement. C'est un projet qui est actuellement financé par l'AFD et l'ADEME. Iris en a parlé tout à l'heure, donc on avait été sélectionné pour le premier prix solution innovante pour l'accès à l'énergie au réseau. Et l'objectif, c'est d'ici début 2020 d'avoir 130 maraîchers équipés avec une solution de pompage solaire. Et quand on dit solution, il n'y a pas que la pompe en elle-même, il y a aussi autour une solution d'entretien sur le long terme, une solution de financement, etc. Voilà, ça c'est notre projet en deux mots. Et ce qu'on essaye de faire sur ce projet, donc c'est d'une part d'évaluer l'impact du projet sur la réduction de la pauvreté, et d'autre part son impact en termes d'amélioration de la sécurité alimentaire. Pour ça, on a une méthodologie qui s'inspire du canon de beauté des RCT, c'est-à-dire qu'on fait des enquêtes avant-après, le après étant pas que à court terme, juste après la réalisation du projet, pour voir si les résultats sont tenus, mais aussi sur le moyen et sur le long terme. Et pour ça, on a fait des enquêtes. Alors, sur nos premières pompes installées, sur la première vague d'installation, on a fait des enquêtes pour voir quels seraient les maraîchers éligibles au projet. Il y a des caractéristiques techniques, parce qu'il fallait avoir des puits d'une certaine profondeur, fallait avoir une certaine surface d'irrigation, etc. Et là-dedans, on a fait un tirage aléatoire pour en équiper certains et pas d'autres. Avec, je le précise là, parce que c'est une difficulté technique sur ce genre d'études, on a des critères liés au genre et à la jeunesse qui sont imposés au projet, et donc on devait avoir la moitié des exploitants qui soient des femmes et la moitié qui soient âgées de moins de 35 ans, ce qui pose un certain nombre de difficultés après sur la façon de mener l'évaluation. Et donc on a fait une répartition aléatoire, et sur ces deux populations, notre groupe témoin et notre groupe traité, on a fait passer les mêmes questionnaires au même moment pour pouvoir essayer d'évaluer l'impact du projet. En quoi c'est un peu plus léger que ce qui peut être fait d'habitude en matière d'études aléatoires? D'une, ici, on est sur des enquêtes qui sont faites directement par des ONG partenaires du projet. On n'a pas fait appel à des évaluateurs externes, on n'a pas fait appel à des chercheurs du DIPAL expatriés, on a fait appel à des ONG qui connaissent le terrain, puisqu'elles y vivent tous les jours, qui connaissent le projet, qui ont participé à la création du questionnaire, en ayant conscience que il peut y avoir des biais liés au fait qu'elles soient partie prenante du projet, sachant qu'elles sont pas, elles, incitées financièrement à ce que le projet donne de bons résultats. C'est pas elles qui vendent des pompes, c'est pas elles qui vendent des contrats. Et on a accompagné ces ONG par une partie de l'équipe du projet qui est le plus indépendant possible dans notre organisation à nous, c'est-à-dire qui ne travaille que sur ces aspects d'évaluation. Et pour le faire, là, ça a été dit tout à l'heure par l'IED, aujourd'hui, il y a des techniques d'enquête qui existent, qui sont considérablement plus légères et moins coûteuses que ce qui pouvait être fait il y a 10 ans. Donc nous, on a distribué des tablettes numériques avec une application qui s'appelle M-Water, qui permet de faire d'avoir en même temps la réalisation de l'enquête, le remplissage de la base de données, le traitement des données, et qui donne notamment la localisation GPS précise de tous les enquêtés, ce qui est souvent une difficulté pour ce genre de projet. Donc ça contribue quand même à réduire largement les coûts d'enquête, et comme on est sur un projet qui ne cible que l'irrigation, on a pu déployer un questionnaire qui est assez court. Plus le questionnaire est court, moins l'enquête coûte cher. Donc on n'a pas eu là-dessus une vision extensive des impacts de l'électrification. On n'a pas parlé d'éducation, on n'a pas parlé de sécurité, on a parlé seulement de sécurité alimentaire et de l'activité économique des maraîchers. Ce qui permet d'avoir après une enquête assez courte et donc moins chère. Alors je vous montre juste deux résultats parce que le projet est en cours de déploiement. C'est juste histoire de montrer des exemples de résultats qui ne portent pas que sur des indicateurs financiers. Hier, en introduction de la journée, on avait parlé de un questionnement qui peut être posé sur l'impact de l'électrification sur le PIB. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de multiplier un peu les indicateurs. Notamment, quelque chose qui peut être facilement posé, c'est ce que les agriculteurs ressentent des douleurs lors du puisage. C'est quelque chose qui permet quand même de quantifier l'impact du projet. Donc là, si je prends un exemple, en 2018, où notre solution n'était pas déployée, vous aviez enfin quasiment tous les agriculteurs ressentaient des douleurs lors du puisage. Donc en noir, c'est notre groupe de contrôle qui n'a pas reçu la solution d'irrigation, et en vert, c'est ceux qui en ont reçu une fin 2018. Et donc un an plus tard, on s'aperçoit que dans notre groupe de personnes traitées, les douleurs ont considérablement réduit, ce qui nous permet de faire un peu de comparaison. Et là, on avait un autre exemple. Alors, on avait détaillé ici par pays, mais c'était savoir si les maraîchers qui disposent désormais d'une solution de pompage solaire ont plus de temps pour faire d'autres activités. Et là aussi, ça permet d'évaluer l'impact du projet entre le groupe traité et le groupe de contrôle. On voyait un impact significatif. Ça, c'est qu'un exemple. Comme le projet est en cours, j'ai pas beaucoup de résultats à vous montrer. Ça viendra dans les années qui viennent. À partir de cette démarche, il y a quelques recommandations et puis des questionnements qu'on a en tête. Certains ont déjà été abordés ce matin. Le premier point, donc ça a été dit, c'est que dans le cadre de l'électrification, on ne pourra pas généraliser des études d'impact à 50 000, 100 000, 500 000 euros qui seraient conformes à la méthodologie propre et théorique des RCT. On peut quand même, à notre avis, obtenir des résultats un peu plus robustes que ceux qu'on a aujourd'hui, notamment en harmonisant des méthodologies d'évaluation pour rendre les résultats plus comparables ou pour faciliter ensuite la réalisation de méta-analyses. C'est-à-dire que si on avait des questionnaires communs à la fois pour décrire les projets, ce qui existe que très moyennement aujourd'hui, et pour évaluer les impacts, on pourrait plus facilement qu'aujourd'hui compiler les résultats et avoir des résultats robustes. Il y a un sujet qui est délicat, qui est volontairement interrogatif, parce qu'on n'a pas aujourd'hui nous de réponse, c'est comment on fait pour interroger les populations témoins. Populations témoins auxquelles vous n'avez pas apporté l'électricité, qui savent que vous l'avez amené dans leur région, à d'autres villages. Si vous voulez les interroger une fois, trois fois, cinq fois, sur 3 ans, 5 ans, 10 ans, à un moment on va se poser la question de comment faire en sorte qu'elles collaborent à la démarche. Et comme on est sur des projets qui mettent du temps à se monter et sur lesquels on veut évaluer l'impact sur le long terme, est-ce que ça veut dire que ces populations témoins, on les exclut explicitement des futurs projets d'électrification parce qu'on ne veut pas entacher nos futurs résultats? Ça, c'est une question qui est un peu délicate. Et enfin, la dernière question, mais ça a été abordé ce matin, c'est qui est prêt à financer ce genre d'évaluation? Donc nous, on a un certain nombre d'exemples maintenant avec nos amis bailleurs. On s'adresse aussi aux académiques pour voir qui pourrait travailler dessus, mais ça a été dit ce matin, les académiques ont la même question. C'est qui aujourd'hui dans le monde du développement est prêt à financer ce genre d'études, quand bien même on essaye de réduire au maximum les coûts? Ça reste une question ouverte. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Jérémy, avec effectivement cet arbitrage entre coût de l'évaluation et rigueur scientifique et des pistes intéressantes qui ont été proposées. Je vais maintenant laisser la parole à Yann Tanvez, donc qui est spécialiste de l'énergie à IFC, donc du groupe World Bank, au département infrastructure et ressources naturelles à Dakar. Voilà, je te laisse la parole.
Bonjour tout le monde, et puis je vais commencer par m'excuser, hein, vous me voyez beaucoup, mais c'est promis, ce week-end je rentre en Afrique travailler et vous me verrez moins. Je vais axer mon intervention sur les innovations, les nouvelles méthodes en termes de data, qui était un sujet donc présenté dans l'introduction, et je vais le faire un peu comme hier, avec une intervention en trois parties, rappeler un peu des éléments de contexte, énoncer et proposer des pistes de réflexion sur les éléments structurels et structurants dans ce sujet vaste qui est la data, et puis quelques priorités et pistes de recherche pour nos amis universitaires et des ONG, notamment comme Électriciens sans frontières, qui nous, en tant qu'investisseurs travaillant sur le terrain tous les jours, nous paraissent importantes, en tout cas me paraissent importantes. Sur le contexte d'abord, donc on entend partout que data is a new. Donc on entend partout que data is the new gold. C'est vraiment l'expression à la mode. On parle de data révolution depuis un fameux rapport des Nations Unies paru en 2015, avec 4 drivers de cette révolution qui sont la disponibilité exponentielle des data, des données, la disponibilité de processing power qui est on the cloud, qui permet son analyse. De plus en plus d'algorithmes et de logiciels qui sont open source et donc qui favorisent des avancées en termes d'analyse. Et enfin, l'évolution elle-même des algorithmes et notamment de tous les algorithmes qui sont du machine learning et qui ouvrent des perspectives qu'on n'avait pas avant. C'est un agenda déjà prioritaire dans les marchés avancés. Par exemple, McKinsey estime que la donnée et son analyse est une des 5 priorités pour les États-Unis dans les années à venir et que ça pourrait engendrer jusqu'à 620 milliards annuels de croissance en termes de GDP. Donc c'est assez important. Au niveau global, pour donner quelques chiffres, c'est un marché qui a la donnée et son analyse, c'est un marché de 220 milliards de revenus annuels. Et donc c'est un marché énorme, hein, surtout côté secteur privé et dans les économies développées. Et ce marché énorme crée de plus en plus d'investissements dans la donnée, les moyens de la collecter et dans les moyens de l'analyser. Et donc on arrive aujourd'hui à des choses qu'on n'imaginait pas pensables. Aujourd'hui, pour moi, il y a deux exemples, hein, que j'aime bien donner. C'est la campagne d'Obama, par exemple, en 2012. Première fois qu'on utilise vraiment le big data, l'intelligence artificielle dans un processus politique. Ça a été amélioré, enfin, si on peut dire, par Trump en 2017, de manière un peu moins glorieuse, avec d'autres méthodes. Le deuxième exemple, c'est Amazon, par exemple, qui vient de lancer son programme de commande prédictive et qui est déjà a fait des cartons avec 80% de votre prochaine commande avant même que vous l'ayez commandée. Et toutes ces solutions sont basées à la fois sur énormément de données et à la fois des investissements sur les algorithmes, etc. Je venais d'en parler. Donc ça, c'est super, c'est très sexy, hein, d'en parler, etc. Mais là, encore une fois, quand on regarde l'Afrique, et notamment dans le domaine de l'énergie, il y a un mais, quoi. C'est-à-dire que l'Afrique, on n'est pas du tout là. On en est vraiment très loin. Et ce qu'on voit, c'est que alors qu'il y a énormément d'investissements et d'avancées sur les marchés développés et sur les problèmes qui se posent à ces marchés développés, il y a vraiment peu d'investissements dans la donnée et dans son analyse pour les problématiques qui sont pour les marchés africains et émergents. Et donc ça, c'est vraiment un frein à l'utilisation des innovations dans la donnée. Et pendant qu'Amazon prépare notre prochaine commande, en réalité, moi, sur mes projets en Afrique, la réalité, c'est qu'on ne sait pas où les personnes vivent, déjà, pour commencer. On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'elles consomment, évidemment. Dans niveau supply, sur les infrastructures, on ne sait pas où sont les réseaux, aujourd'hui. Et une bonne partie des réseaux, on ne sait pas les localiser de manière précise. Pour donner un autre exemple, jusqu'à la première publication du Global Tracking Framework de la Banque mondiale en 2013, on ne connaissait pas les taux nationaux d'accès à l'électricité autour du monde. En fait, il n'y avait pas de base de données là-dessus. Donc on vient de très loin et j'aime bien mettre ça en perspective parce que voilà, c'est très sexy de parler de la big data, etc., mais la réalité, elle est tout autre sur le terrain en Afrique. Un autre exemple, c'est sur les SDG ou ODD. En 2016, l'ONU avouait dans un rapport que, en fait, elle ne pouvait pas mesurer les impacts sur 42% des 230 indicateurs qui constituent les SDG. C'est-à-dire qu'on a des objectifs, mais on n'est pas capable de les mesurer. Où je veux en venir ? Je m'éloigne un peu, mais le message que je voudrais développer maintenant, c'est que, en effet, il y a beaucoup de hype vis-à-vis de la donnée, son analyse, etc., mais que la réalité est bien plus sombre. Et pour revenir sur l'off-grid, le manque de données et des outils d'analyse est vraiment un frein au développement du segment. Du point de vue public, c'est un vrai problème, par exemple, pour commencer par la planification géospatiale. Quelque chose que nous, on accompagne les gouvernements à le faire, notamment le Togo, et Ami est là pour vous en parler. C'est très difficile et c'est un coût énorme. Par exemple, au Togo, pour pouvoir faire un exercice de planification, ça a coûté 800 000 euros et ça a duré 6 à 8 mois. Voilà, on a envoyé des gens sillonner le pays avec des 4x4, etc., pour avoir cette baseline. C'est-à-dire qu'avant de faire de l'évaluation, il faut de la baseline, il faut de la planification. Et ça, c'est très coûteux, ça prend énormément de temps. Et donc ça, c'est un frein au projet, par exemple. On aurait eu cette donnée, on l'aurait fait en 2-3 jours et on serait passé à l'implémentation des projets. Du point de vue plus secteur privé, C'est un peu la même chose. On a les amis de Sankofa ici, pourront le dire. Avant de répondre à un appel d'offres, quand on est une société de mini-réseau, en fait, on doit envoyer des gens sur le terrain, sillonner le pays de la même manière avec des 4x4, etc. Ça prend énormément de temps et ça prend des ressources. Et c'est aussi un risque côté investisseur, c'est-à-dire que quand moi, je regarde les estimations de demande qu'on me demande de financer un projet, eh ben j'ai beaucoup de mal à y faire confiance. Soit elles viennent du secteur public, soit elles viennent du secteur privé. Les méthodes sont extrêmement différentes, les formats sont différents, c'est extrêmement différent. Et donc ça, je peux pas y faire confiance en tant qu'investisseur. Et donc ça induit un risque et ce risque a un coût. Je vais arrêter un peu de parler des barrières pour maintenant proposer des pistes de réflexion sur des éléments structurels, sur comment on peut fermer au niveau un peu macro ce qu'on appelle ce digital divide en réalité au niveau de la donnée. Pour moi, il y a 4 éléments structurels. Le premier, c'est toujours un peu le même dans mes interventions, c'est développer la capacité des pays à utiliser et à analyser cette donnée. C'est-à-dire que, par exemple, quand on fait de la planification géospatiale, c'est bien de le faire, c'est bien d'avoir le plan, mais ce qui est encore plus important, c'est que ce plan, il ait été fait avec les équipes du ministère, c'est-à-dire qu'on puisse être capable de faire son update 2 ans, de le suivre, etc. Et donc, je salue les efforts d'Électriciens sans frontières, par exemple, dans le domaine, et j'espère, et je vous invite à vraiment payer attention, enfin à faire attention à cet aspect renforcement des capacités quand on fait les exercices, plutôt que donner un rapport et les résultats. Ça, c'est sur l'analyse. Il faut aussi, pour moi, renforcer la capacité des pays à collecter cette donnée de manière systématique et régulière, pour avoir en effet des baselines, encore une fois, qui nous permettront de faire du monitoring et de l'évaluation. Ça, pour moi, ça passe sur le renforcement des instituts de la statistique, qui sont extrêmement déficitaires en réalité en Afrique. Je ne sais pas si vous avez déjà cherché un national census sur les pays africains. La réalité, c'est que c'est dur de trouver un census qui est moins de 6 ans et qui a un échantillon suffisant pour pouvoir s'y baser et faire de la politique publique. Donc ça, c'est vraiment important. Enfin, le troisième aspect, c'est capitaliser sur les innovations en big data. Donc ok, c'est un peu hype, mais je pense qu'il y a toujours quelque chose à faire là-dessus. Notamment en capitalisant sur la digitalisation rapide du continent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans pas mal de pays africains où j'habite et je travaille, les jeunes, en fait, sont sur Facebook, ils sont sur WhatsApp. On utilise de plus en plus le mobile banking. Ça, c'est autant de données qui, en fait, peuvent pallier à ce déficit de données. Pour donner une statistique intéressante, aujourd'hui, les pays émergents, c'est 32% de la donnée au niveau global en 2018. On estime qu'en 2020, c'est 62% de la donnée globale, Afrique et pays émergents, Asie. Et donc ça, c'est une manne éventuellement qu'on pourra chercher à utiliser. Nous, par exemple, pour une application assez concrète, on a cette question de la demande et un problème d'analyse de la demande dans nos projets mini-réseaux. De manière très concrète, on est en train de travailler avec Orange pour voir si on peut pas développer un algorithme sur ce qu'on appelle les call data records, qui sont les données d'appel, d'émission et de réception d'appel, qui nous permettraient d'avoir un proxy pour la demande très localisée des populations. Donc ça, c'est par exemple un exemple très concret de comment on peut capitaliser sur la digitalisation du continent. Et voilà. Le quatrième aspect qui est pour moi aussi très important, c'est un agenda pour moi public, hein, la donnée avant tout, c'est l'ouverture de ces données. Aujourd'hui, on a peu de données et la réalité, c'est que quand on collecte de la donnée, que ce soit chez les institutionnels, chez nous, ou chez les gouvernements, en fait, cette donnée reste fermée. Et c'est dramatique. Je pense qu'en fait, il faut l'ouvrir. Ça aidera tout le monde, le secteur public, le secteur privé. Par exemple, à la Banque mondiale, on a lancé une plateforme d'open data qui s'appelle Energy Data Info. On a fait ça il y a 2 ans. Aujourd'hui, on a 600 datasets qui n'étaient pas disponibles et des milliers de connexions par jour. Et ce qui démontre que cette donnée, en fait, est recherchée. Et donc, c'est important de l'ouvrir. Je vais finir mon intervention sur ce qui sont pour moi les priorités vues depuis le terrain sur l'off-grid et essayer de donner des pistes d'agenda de recherche et de développement dans la donnée. Pour moi, encore une fois, je reviens sur mon intervention d'hier, la planification, qui est pour moi l'autre côté du contrôle et de l'évaluation, enfin en tout cas ça va ensemble, est extrêmement important. Et là, je vais appuyer le propos de Jérémy, c'est que il faut vraiment réussir à harmoniser les méthodes de planification et de contrôle et d'évaluation. Tant qu'on aura un patchwork de méthodes, ça sera vraiment compliqué de les mettre en place et aussi de les comparer. Il faut renforcer les équipes locales et les institutions, encore une fois. Les agences d'électrification devraient avoir des capacités de planification. Ça, c'est pour moi une base. Et finalement, il faut aller vers la transparence et publier ces plans, publier ces résultats pour qu'on puisse les regarder, qu'on puisse les discuter, qu'on puisse collectivement vérifier les avancées. Et ça, c'est important parce que ça introduit un cercle vertueux dans les politiques publiques et dans le développement des projets. La donnée disponible et la transparence, ça aussi réduit le coût et le risque, le coût de transaction et le risque pour le secteur privé. Donc c'est aussi important. Le deuxième aspect, la deuxième priorité que je vois pour moi, c'est un agenda de recherche sur la demande. Aujourd'hui, en termes de financement sur le Love Grid, c'est le risque le plus important. Et c'est celui qu'on comprend le moins. Et donc, pour moi, il y a vraiment un travail à faire. Et j'invite nos amis universitaires à vraiment travailler là-dessus. Parce qu'on ne sait pas estimer la demande. On sait estimer l'élasticité. On a du retour sur expérience sur l'élasticité de la demande dans les pays développés, sur les îles, etc. Mais on l'a pas en Afrique. Je vais essayer de fast-forward mon intervention, excuse-moi Rémi. Et sur la demande, par exemple, moi j'aimerais arriver à un point où on est capable de prédire cette demande. Il y a 10 ans qu'on construisait des centrales solaires à grande échelle, on avait un énorme risque sur la radiation solaire. Et on mettait des panneaux et on faisait des mesures pendant 2 ans pour savoir et dérisquer l'investissement. Aujourd'hui, parce qu'on a fait ce travail de manière harmonisée, on a des modèles qui permettent de vous sortir une irradiation fiable à 90% à partir d'ordinateurs et d'images satellites. J'aimerais que demain, dans 3 à 5 ans, on puisse faire la même chose avec la demande en zone rurale. Et finalement, mon dernier point, c'est sur l'impact. Et l'impact, il est important du point de vue privé, mais du point de vue privé, c'est la rentabilité qui reste primordiale. Et aujourd'hui, le secteur du mini-grid est basé sur des financements qui sont dits impact. Et donc, ces financements viennent, et de la subvention aussi, et ces subventions et ces financements viennent avec des impératifs de justifier son impact, et c'est bien normal. J'ai aucun problème avec ça. Par contre, il faut se rendre compte que c'est pas le cœur de métier du secteur privé, et que ça introduit des difficultés potentiellement. Des difficultés d'une part parce que ça demande des ressources et c'est pas rare d'avoir un opérateur, un développeur qui a différents bailleurs, différentes sources de financement et qui va devoir faire autant de dossiers d'impact différents avec des indicateurs différents. C'est juste pas possible, c'est vraiment compliqué. Donc harmoniser la méthodologie pour ces indicateurs d'impact. Le deuxième aspect qui est pour moi très important, c'est de découpler impact et financement. La conditionnalité du financement vis-à-vis de l'impact peut avoir des effets très pervers. Un exemple très simple, c'est que je vais au Burkina, c'était l'an dernier, voir une compagnie de solar system qui avait eu un financement sur la base d'impact. Elle arrive en fin d'année, elle n'a pas atteint ses objectifs que, je ne sais pas qui, les Hollandais lui avaient donné. Eh bien, en 2 mois, elle a doublé son installation de panneaux solaires juste pour rentrer dans les cadres de son financement. Qu'est-ce que ça a créé? Ça veut dire que cette entreprise qui faisait de la due diligence sur la capacité de crédit de ses utilisateurs fonctionnait bien, mais elle fonctionnait pas suffisamment rapidement. En déployant tous ces solar home systems sur les toits de gens dont elle n'avait pas fait le credit rating, en fait, elle s'est exposée. Et finalement, son taux de recouvrement, qui était de 90%, est passé à 50-60%. Et ce qui a mis complètement en jeu son activité, parce que derrière, elle a dû aller rechercher ses systèmes solaires, etc. Et en gros, on a tué une petite boîte au Burkina Faso, juste parce qu'on lui demandait de justifier de son impact et que c'était conditionné à ses financements. Donc ça, c'est le deuxième aspect où j'aimerais qu'on fasse un peu plus attention. Voilà. Merci. Désolé d'avoir fait.
Merci beaucoup, Yann. Merci beaucoup Yann, je vais avec beaucoup d'éléments intéressants, j'ai beaucoup il y a un mot qui revient beaucoup, c'est harmonisation aussi. Et ça, je pense que c'est un des enjeux clés aussi de ce débat-là. Je vais laisser tout de suite la parole à Shanaz Khan, qui travaille pour 60 Decibels, qui est une agence d'évaluation d'impact social, qui développe du coup des méthodologies ici innovantes permettant qu'elle va du coup nous présenter.
Is this on now? Yeah. Hi everyone, it's so great to be here today to talk a little bit more about 60 Decibels and our approach to impact measurement. 60 Decibels is a spin-off from the energy investor Acumen. So we've come from a private investor, and now we're a separate organization who works with many different funders in the impact investing space. Lean Data is our core product. It's a service that allows low-cost and high-speed impact measurement remotely from over 30 countries worldwide. Just go to my next slide. So we have a quick turnaround time, and we use local researchers in the geographies we're working in who we've trained through a training program, and this enables us to do bottom-up impact measurement from the customers and the end users of the programs and the social enterprises that we're working with. So we have a lot of experience in energy purely because Acumen, where we used to do all our work, primarily focused on energy investments. And so we have a standardized question set that we've used with 45 social enterprises across the world. And these question sets are modular. So let me actually go up to here. So we have a list of standardized energy indicators that we're able to pull in depending on what an enterprise is interested in, what their product is, whether they work with solar lanterns or home systems or mini grids or productive use appliances. So going back to the big picture, so we've surveyed 100,000 customers in the past 5 years, and 70% of our surveys are done remotely over the phone. We do also have in-person and SMS and online capabilities, but we prefer to use mobile surveys to keep our costs down. Our typical projects have a sample size of about 200 to 300 customers, and bear in mind this is for a social enterprise who probably has 2,000 customers in total. For larger programs, we've developed programs that are a year long, and we've surveyed up to 2,000 or 3,000 customers. In our energy projects, we usually take a baseline and follow-up approach. So we'll initially speak to customers prior to the intervention of their solar home system or solar lantern, and then we'll speak to them again 3 to 4 months later to measure differences in the answers to the questions on our survey between the two points in time. We have a lot of experience in energy, as I mentioned before. We've conducted over 22,500 interviews, and actually, I think that's 22,500 respondents, so it's many more interviews than that, because occasionally we speak to the same customers multiple times. In energy, we've worked across 15 countries, but with the other sectors we work in, such as agriculture, financial inclusion, and health, we have worked in other countries too, so we have capabilities to set up and work in new countries very quickly. So I walked us through our standardized energy indicators. These are ones that we've developed, and actually our Director of Energy Impact also works with Gogla and AMDA to standardize the work that we're doing and feed into their databases as well. So most of our questions are quite open-ended, so that way we can assess negative and positive impacts through our surveys. And so then with this information, we've worked with all the companies listed, so across many different energy products. This has allowed us to create a database with almost 40,000 data points on all the indicators that I mentioned before. And in that way, we're able to create benchmarks so we can show companies how they're performing in comparison to their peers. We can identify areas for them to improve and really shift the narrative from kind of impact reporting to a more impact accountability focus to make sure that the social enterprises that we work with are really fulfilling their potential from an impact point of view. So Early next year, we are putting together a report that synthesizes all these data points that I've been talking about. It'll be published and, you know, available for everybody to read and use. And we'll be looking at all the data from all these companies on a disaggregated and anonymous basis, and we'll be identifying companies that are performing particularly well, and also disaggregating the data by region, gender, income level, and a long list of other data points as well. So that's really it. I was just going to talk through kind of what our methodology is. These are some of the clients that we've worked with in energy and in other fields. Yeah, that's pretty much it. Thank you.
Thank you very much, Shanaz, so for this interesting approach also that, and for this presentation. So now we on va maintenant passer du coup au point de vue plutôt des chercheurs, donc en commençant par Henri Weizmann, donc, qui est chercheur senior à l'IDRI, coordinateur du projet Deep Decarbonization Pathways et membre du GIEC.
Merci beaucoup, merci aux organisateurs de me donner l'opportunité de venir présenter. Donc moi je travaille au sein de l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales, et je vais vous présenter une approche qui est significativement différente du travail de terrain qui a été présenté par mes collègues sur le panel, mais où on retrouve en fait certains éléments communs. J'ai noté dans les présentations qui ont été données le besoin de renforcer les capacités dans les pays. C'est pas en venant juste de l'extérieur et en venant apporter une méthodologie développée ailleurs, mais il y a un besoin d'appropriation et de s'assurer que les capacités sont construites dans le pays. La nécessité d'harmoniser les méthodes, la nécessité de transparence, la nécessité de généralisation, de standardisation. Donc sont des principes qui sont aussi valables sur le sujet dont je vais vous parler, qui est la question des trajectoires de décarbonisation. Donc là, on va prendre une perspective qui est une perspective plus vision stratégique. Quel est le rôle de l'électrification et notamment de l'électrification off-grid dans les trajectoires de décarbonisation, c'est-à-dire dans les trajectoires qui sont construites avec comme point d'entrée la problématique climatique. Donc je ne vais pas vous faire un grand retour sur l'accord de Paris, mais très simplement, ce à quoi on va s'intéresser dans les travaux de l'IDRI, c'est l'objectif défini dans l'accord de Paris qui est d'atteindre un objectif de stabilisation de la température globale bien en deçà de 2 degrés, de façon très importante, qui est construit sur l'idée que chaque pays doit construire sa propre trajectoire et ses propres objectifs, notamment avec une vision de long terme, en tenant en compte le fait que, finalement, les décisions qui sont prises aujourd'hui, à très court terme, et sur un secteur aussi important que le secteur de l'électricité, c'est particulièrement le cas, vont conditionner la capacité à aller vers le type d'objectif qu'on doit se donner pour atteindre l'objectif d'aller bien en deçà de 2 degrés. Et donc, très temporairement, je vais prendre une casquette du GIEC, auquel j'ai participé, juste pour vous dire de quoi parle-t-on, parce qu'en fait, un objectif de stabilisation de la température, c'est relativement intangible. En fait, ce dont on parle très concrètement, c'est une réduction drastique, notamment des émissions de carbone. Et quand on parle de drastique, on parle d'atteindre un objectif de neutralité carbone à un horizon du milieu du siècle, entre 2050 et 2075 à peu près. Donc ça sont des évaluations scientifiques de l'objectif, et les émissions de carbone essentiellement, très largement, causées par la consommation des énergies fossiles, pétrole, gaz et charbon. Et dans ces processus de transformation, évidemment que l'électricité a un rôle fondamental à jouer. Et une des évaluations données encore une fois par la revue de la littérature sur ces questions-là, c'est que ce type de scénario qui peut atteindre la neutralité carbone, donc satisfaire les objectifs de l'accord de Paris, sont des scénarios dans lesquels les énergies renouvelables sont amenées à jouer un rôle dominant dans le mix électrique mondial. Donc les ordres de grandeur entre 70 et 85%, encore une fois, sont des évaluations avec toutes les marges d'incertitude qu'on peut imaginer, mais qui montrent qu'il ne peut pas y avoir de trajectoire cohérente avec l'accord de Paris sans un développement massif des énergies renouvelables dans la production d'électricité. Tous les autres messages que vous entendrez sur la production d'électricité et le rôle des technologies sont beaucoup moins robustes que celui-là. Celui-là, c'est celui qui est vraiment indéniable, avec la sortie d'énergies telles que le charbon, mais c'est pas vraiment le sujet. Donc la question fondamentale quand on parle de trajectoire de décarbonation, c'est évidemment quelque chose qui est aussi un petit peu provoquant, comment dit-on ? De temps en temps, à force de parler trop en anglais, on oublie comment on dit en français, peu importe. Parce que ça met en avant cet objectif de sortir le carbone du système. Mais évidemment que ce qui va nous intéresser, c'est d'essayer de construire des trajectoires qui permettent d'aligner cet objectif d'imaginer un futur sans carbone avec les objectifs de développement. On ne parle pas de satisfaire la protection du climat au coût d'empêcher les populations d'avoir accès à des services, mais au contraire, vraiment d'essayer de comprendre comment on peut aligner les deux objectifs. Et donc c'est le sens de cette initiative donc, qui s'appelle les trajectoires de long terme, donc Deep Decarbonization Pathways, lancée par l'IDRI, pour essayer de considérer cette question. Et quand on regarde cette question, on voit que ça pose un certain nombre d'enjeux de reconnecter comment est-ce qu'on construit une vision nationale, parce que le contexte national, c'est le point d'entrée, évidemment que les contextes sous-nationaux seraient importants, mais le contexte national, c'est le point d'entrée de la discussion, par rapport, qui serait cadré par un objectif global. On voit qu'il y a un enjeu d'échelle qui n'est pas évident. Comment est-ce qu'on peut reconnecter les enjeux des priorités de développement telles qu'elles vont être définies par les différents pays et la question des trajectoires d'émissions de carbone. Et de façon très importante, comment est-ce qu'on peut reconnecter une vision qui est par définition, quand on parle de climat, une vision de long terme avec les actions de court terme qui doivent être prises, parce que encore une fois, on parle de trajectoire à 2050, mais c'est pas pour dire il y a une action qui doit avoir lieu à 2050. On se rend compte dans l'analyse que beaucoup des actions qui vont être prises dans les quelques prochaines années, et c'est particulièrement vrai dans les pays en développement très rapide, vont complètement conditionner la capacité de ces pays à aller vers des trajectoires ambitieuses tout en satisfaisant leurs objectifs de développement. Et donc ça pose tout un ensemble de questions méthodologiques sur comment est-ce qu'on regarde ces trajectoires et quel type de données on regarde. Donc pour atterrir sur la question qui est la question commune de cette session. Et beaucoup de choses que je vais vous dire sont probablement des choses qui vont vous paraître évidentes, mais il y a une difficulté qui est que les méthodologies qui sont utilisées de façon conventionnelle par la communauté de recherche qui s'intéresse à ces questions de climat comme point d'entrée, qui sont beaucoup cadrées par l'utilisation notamment de modèles relativement complexes du système énergétique, définissent aussi une vision particulière des types d'informations qu'on va regarder avec un focus très important justement sur l'évolution des trajectoires énergétiques et potentiellement moins de capacité à aller regarder certains des sous-jacents fondamentaux de ces trajectoires énergétiques tels que les trajectoires de développement. Donc très concrètement, quel type d'informations nous on essaye de regarder quand on analyse ces trajectoires dans le cadre de l'initiative de l'IDRI, on essaye de se demander quel type d'informations on doit regarder. Et la première chose sur laquelle on veut mettre l'accent, c'est que oui, on parle de climat. Oui, évidemment, les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre, c'est quelque chose qui va être fondamentalement important pour évaluer la cohérence des trajectoires par rapport à l'objectif climatique. Mais ce qui compte, ce qui est utile, si on veut parler d'actions concrètes, c'est de parler de contenu de la transformation. C'est pas en parlant de trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre, en parlant même de trajectoires énergétiques, qu'on va être capable d'avoir une discussion extrêmement concrète et informée sur le type de transformation, mais c'est en essayant de regarder comment est-ce qu'on transforme le système. Donc, pour prendre l'exemple de l'électricité, les trajectoires de production d'électricité à l'échelle nationale, c'est pas quelque chose qui est très opérationnable. Par contre, d'essayer de comprendre d'où vient cette électricité, quel secteur la consomme, quels sont les changements qui doivent avoir lieu dans les usages pour suivre cette trajectoire, ça c'est quelque chose qui est potentiellement relativement concret, qui permet de faire le lien entre cet objectif qui est par définition global ou national, donc à une échelle macro, et les décisions de terrain. La deuxième chose, c'est de faire le lien avec les impacts socio-économiques. Encore une fois, l'énergie, pas besoin de discuter plus que c'est au cœur des trajectoires de développement socio-économique. Et du coup, nous, ce qu'on essaye de faire quand on travaille sur ces questions-là, c'est de demander aux gens avec qui on travaille, donc des gens dans les pays, de commencer par définir quels sont leurs objectifs, quels sont les objectifs de leur pays en termes de développement. Et ça peut paraître encore une fois relativement trivial, c'est un choc pour beaucoup de ces gens-là qui rentrent par la question sous l'angle trajectoire énergétique et climat, de se demander comme point d'entrée de la discussion, quels sont les objectifs de mon pays en termes, bon, évidemment, d'accès à l'électricité, mais même en termes de niveau d'activité sur un certain nombre d'activités très importantes. Deuxième chose, l'évaluation des coûts économiques, c'est évidemment quelque chose qui est fondamental, et de coûts économiques pas seulement à un niveau agrégé comme les économistes savent le faire relativement bien, ou en tout cas qui sont habitués à faire, mais d'être capable de fournir des informations qui peuvent concrètement informer le type de défi auquel on peut faire face. Évidemment que si on agrège tout, les coûts d'investissement et les coûts d'utilisation d'une énergie, on va avoir une information qui est très différente de l'information si on distingue ces deux coûts, parce que beaucoup d'obstacles, et particulièrement pour l'installation du type d'énergie décentralisée dont on parle, va être lié à la capacité à faire face aux coûts d'investissement qui est potentiellement assez élevé et qui ensuite peut être amorti sur la durée, mais on sait que les populations qu'on vise ne sont pas forcément en capacité de faire face à ces coûts. Donc d'être capable de fournir une information concrète des différents types de coûts associés à ces trajectoires est fondamental. Et la dernière chose qu'on essaye de leur demander sur les aspects socio-économiques, c'est de faire le lien avec des aspects qui ne sont pas justement purement économiques. Typiquement les contraintes géographiques, les contraintes physiques, les contraintes de mode de vie, d'usage. C'est pas vrai qu'on peut appliquer les mêmes systèmes et les mêmes solutions dans tous les contextes. Il faut tenir compte de tout un ensemble de facteurs quand on veut construire ces trajectoires. Et enfin, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, mais juste pour dire, parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais il y a un besoin d'être capable d'informer les conséquences des actions de court terme sur les trajectoires de long terme. Et pour ça, on a besoin d'avoir une représentation relativement explicite du type de capital dont on parle. Et juste pour vous prendre un exemple très rapide, j'étais en Inde la semaine dernière, et on discute avec les décideurs au sein des ministères de la question justement du déploiement, évidemment en Inde, le développement du solaire, c'est un objectif extrêmement fort. L'obstacle fondamental qu'ils voient au développement du solaire, c'est essentiellement qu'il y a une base extrêmement importante qui a été installée très récemment de centrales à charbon. Des centrales qui existent, qui ont été installées dans les 10-15 dernières années, des volumes qui sont monstrueux comme dans un pays comme l'Inde sait faire, et qui font force à faire face à un choix très important entre installer le solaire à un niveau extrêmement élevé, mais au risque de ne pas utiliser complètement les ressources qui ont été déjà installées, donc d'avoir une perte économique qui est associée, ce qui se traduit par une augmentation du coût. Et la question fondamentale, c'est qui paye ce coût? Si ce coût il est traduit par une augmentation du prix de l'électricité par les ménages, ça veut dire que installer l'énergie solaire en Inde, ça va se traduire par une augmentation très significative du coût à payer par les ménages indiens, parce qu'on a une base de centrales à charbon qui est préinstallée et qui ne sera pas amortie complètement comme c'était prévu. Donc il y a des enjeux fondamentaux sur les décisions de court terme qui conditionnent potentiellement la capacité du pays à installer ces centrales. Le dernier slide, je ne vais pas du tout rentrer dans tous les détails, juste pour vous dire tous les bénéfices de ce type d'approche. Je voudrais juste pointer le dernier point tout en bas, qui est l'utilité de ces visions stratégiques pour favoriser l'alignement entre les actions des différents acteurs. C'est quelque chose qui est fondamental. Ça peut paraître un exercice relativement théorique, conceptuel, déconnecté de la réalité, et ça peut l'être. Et tout l'enjeu du type de travail qu'on essaye de pousser dans les pays, c'est d'essayer de faire en sorte que ces exercices de stratégie soient des opportunités pour faire le lien entre les actions faites par les différents acteurs sur le terrain, qui sont par définition relativement micro, et d'être capable de les positionner dans le cadre d'une stratégie qui est plus globale à l'échelle du pays, parce que c'est aussi le moyen d'être capable de capitaliser, d'attirer les financements par exemple, et de faire en sorte que les mesures d'accompagnement et les incitations par exemple en termes d'accompagnement du gouvernement ou de la coopération internationale soient alignées et n'envoient pas des signaux contradictoires par rapport à ces histoires de stratégie. Donc vraiment cet objectif fondamental qui est de connecter le plus macro et le plus micro force à se reposer un certain nombre de questions, et donc pour conclure, qui sont finalement les mêmes questions qu'on se pose quand on pose ce questionnement depuis la vision de terrain, la question des transparences, de l'harmonisation des méthodes et des capacités des pays à conduire ces analyses sont les conditions pour aussi favoriser cet alignement, qui sont aussi les conditions nécessaires pour être capable de faire le type de transformation dont on parle, à l'échelle dont on parle, et pas seulement d'avoir des micro-projets indépendants, mais des micro-projets qui nourrissent la même tendance générale. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Henri aussi de rajouter cette dimension qu'on a peu évoquée jusqu'à présent aussi de mise en cohérence des objectifs avec ce lien aussi de décarbonisation. Je vais maintenant laisser la parole à Jean-Louis Arcan qui est en train d'installer mettre en place sa présentation. Donc Jean-Louis Arcan, professeur d'économie, spécialiste des questions de développement, il est directeur du département d'économie internationale au Graduate Institute à Genève, et donc il a une longue expérience en termes d'évaluation d'impact et d'impact au niveau microéconomique.
J'en profite juste pour remercier Henri de sa présentation et rappeler que on a une initiative commune avec l'IDRI qui fait que l'IDRI est représentée dans le cadre de ce panel, mais bien plus largement. Ils nous ont aidés à organiser et à inviter certains des intervenants qui sont ici. L'initiative pour le développement et la gouvernance mondiale, qui est un merci du peu, très pompeux, mais qui nous réunit avec un financement et un soutien éminent de certains des grands bailleurs qui sont ici.
Ça y est, tu vois, j'ai duré.
Merci, c'est sympa. Ouais, merci pour la longue expérience. Tu veux dire que je suis un vieux, ouais, mais t'as raison. Dans les quelques minutes pendant lesquelles je vais vous embêter, je veux réagir un peu à ce qui a été dit depuis. C'est pour ça que j'étais en train de taper, en train d'essayer de voir aussi comment je pouvais combiner ça avec les choses que je fais. Et cette petite présentation, je vais l'appeler Evaluation Light, ouais, comme les bières light. Il y a moyen de faire de l'évaluation qui est rigoureuse sans pour autant se retrouver dans le terrain des talibans de la randomisation. Il y a en fait trois ingrédients pour faire ce genre de travail. Et ici, je vous parle pas en termes de rêve. Là, c'est des trucs avec des collègues à l'EPFL et à Swiss EPH, donc c'est l'Institut de médecine tropicale à Bâle, nous sommes en train de mettre en place. Même pour des pays extrêmement pauvres, donc comme le Burkina, il y a un investissement massif qui est fait à travers le temps dans la collecte de données microéconomiques. Donc si je prends concrètement l'exemple du Burkina, il y a les enquêtes permanentes agricoles, juste pour prendre un exemple de données micro. Nous, on a les enquêtes permanentes agricoles de 1993 à 2017. Okay. Et ces enquêtes permanentes agricoles sont des enquêtes qui donnent énormément d'informations sur la production. C'est au niveau de la parcelle, sur les intrants, sur tout le comportement des paysans. Donc supposons que nous voulons essayer d'étudier l'impact de différents types de projets, en l'occurrence d'électrification décentralisée. On n'a pas besoin d'aller faire les enquêtes. Le problème, et ce qui coûte cher, c'est faire les enquêtes. Mais il y a déjà des gens qui sont en train de les faire, ces enquêtes, et les font depuis 20 ans, dans la plupart des pays pauvres. Donc ça, c'est l'exemple du Burkina. Il y a aussi, évidemment, des données ménages. Là aussi, nous sommes en train de travailler avec des données ménages qui remontent à 1996, qui vont jusqu'en 2017. Le bottom line ici, c'est quoi? C'est que on construit facilement, je vous donne les chiffres précis ici, pour le Burkina, donc une base de données qui correspond à 2585 villages. Ces villages ne sont pas observés dans chaque année de 93 ou 96 jusqu'à aujourd'hui, mais c'est 24 000 ménages. Et de ces ménages, il y en a la moitié qui sont observés au moins pendant 3 ans, qui ne sont pas forcément consécutives. Donc si on pense à regarder, à construire des contrefactuels sur des zones qui sont traitées par des électrifications décentralisées et des zones qui ne sont pas traitées, je veux dire, les données, elles existent, même pour un pays comme le Burkina. Moi je suis Canadien, on n'est pas en train de parler de l'Ontario, du Québec, on est en train de parler du Burkina. Donc inutile d'aller dépenser 200 000 balles ou 400 000 balles ou 1 million de dollars pour faire des enquêtes, les données sont déjà là. Il ne faut pas être plus catholique que le pape évidemment, mais les données sont déjà là. Si je vous montre, ça c'est la couverture géographique de nos données. Il n'y a pas beaucoup d'endroits au Burkina que nous ne couvrons pas avec nos données. Juste pour full disclosure ici, le projet en question, c'est ce projet de recherche pour lequel nous avons construit ces données, ça n'a rien à voir avec l'électrification. En fait, c'est sur la schistosomiase. Okay, donc c'est sur les impacts économiques de la schistosomiase et en particulier ensuite sur des interventions qui vont être faites par Swiss EPH, par l'Institut de médecine tropicale, avec évidemment en collaboration avec l'OMS et nos amis burkinabés, pour la réduction de la schistosomiase. Mais si je remplace schistosomiase ici par des données sur des interventions en termes d'électrification décentralisée, ben, je veux dire, c'est kiff-kiff ici. Hein, je veux dire, c'est l'instrument qui compte. Donc ça, c'est le premier ingrédient. Okay, le premier ingrédient, c'est cela. Et en fait, c'est un ingrédient qui est donné et de cartes. Alors pourquoi cartes? C'est pour ça que je l'ai intitulé Maps. Parce que ensuite, il faut jumeler ça avec the eye in the sky, avec tout ce qui est données satellitaires. Les données satellitaires, ça existe pour le globe terrestre, plus ou moins, c'est gratuit. Oui, ce sont des terabits et des terabits de données, mais désormais, je veux dire, votre téléphone portable a plus de puissance de calcul que les ordinateurs qui étaient sur Apollo 11. Donc, je pense qu'on est capable de faire cela. Genre, même le Burkina a un centre d'études spatiales. Il y a des capacités informatiques au Burkina qui n'ont rien à envier avec ce que font beaucoup de chercheurs dans des pays un tout petit peu plus riches. Et la résolution de ces données est extrêmement fine aujourd'hui. Elles sont gratuites. Donc, on a des investissements dans le passé dans des données micro, des données d'enquête, et on a des données gratuites satellitaires. Et quelles sont ces données? Il y en a des tonnes. Alors, celle que vous connaissez le mieux, c'est la luminosité nocturne, à des résolutions qui sont désormais vraiment très très bonnes. Ce qui est assez curieux, je racontais ça à Rémi juste avant de commencer. Les travaux les plus intéressants en ce moment sur l'utilisation de la luminosité nocturne comme mesure de l'activité économique se font au FMI. C'est pour ça que j'ai mis le côté obscur de la force ici, the dark side of the force. Parce que le FMI, c'est aussi en hommage à nos amis de IFC qui sont ici, c'est la lumière du côté de la force. Mais il y a énormément d'autres sources de données satellitaires. Nous avons mis la main sur tout cela. C'est dans l'espace de 6 mois que nous avons construit tout ceci. Il y a le LST, donc ça c'est sur les températures. Il y a des données sur la végétation. Il y a le EVI, il y a la pluviométrie. Donc si vous voulez essayer de contrôler pour tout un tas de facteurs qui vont affecter la production agricole ou la production économique, tout ceci existe. Et ensuite, le genre de méthodologie que vous allez utiliser, évidemment, ça va être désormais du machine learning, etc., pour essayer de gommer toute la variance résiduelle. Mais ces méthodologies existent, les données existent, l'évaluation light, on peut la faire. Mais on peut la faire à condition de ne pas passer notre temps à dire qu'il n'existe qu'une seule méthode d'évaluation. Alors, les gens qui font de l'évaluation depuis longtemps, il y a des gens bien plus intelligents que moi. Vous vous souvenez d'Angus Deaton? Okay. Angus Deaton, il a un petit cri, lui aussi. Il est extrêmement critique, disons, de l'impérialisme des randomistas. Moi, je les appelle pas les randomistas, moi, je les appelle les talibans de la randomisation, et je vous dirai pas qui est mon Mullah Omar, en l'occurrence. Mais le problème, c'est que l'évaluation, du point de vue social, du point de vue de la responsabilité sociale, et du point de vue de la lutte contre la pauvreté en général, qui passe par la lutte contre la schistosomiase, comme ça passe par l'électrification rurale décentralisée et bien d'autres politiques encore. Là, il faut vraiment être, c'est un terme que je déteste, il faut être holistique. Alors ça, c'est normalement du bullshit quand on parle de holistique, mais bon, quoi qu'il en soit. Mais comme vous savez mieux que moi, la plupart des gens dans cette salle, il y a 5 stratégies d'identification. Il y a les randomisations, il y a la double différence, il y a le regression discontinuity design, il y a les variables instrumentales. Bon, la 5e, c'est du matching, j'y crois pas beaucoup, on devrait pas y croire. Mais il y en a 4 qui sont là. Il y en a 4. Et je m'excuse. Un prix Nobel peut vous dire que la randomisation, c'est le gold standard, c'est l'étalon or. Moi, je répondrai 2 choses. Il y en a un autre, Angus Deaton, qui depuis 5 ans maintenant, je veux dire, passe son temps avec Nancy Cartwright et d'autres personnes à vous expliquer que c'est pas un étalon or, à part le fait que l'étalon or est probablement responsable de la Grande Dépression. Donc, je ne sais pas si dire que quelque chose c'est l'étalon or, c'est forcément une bonne chose. Mais un exemple concret. Je voulais juste prendre un exemple d'une analyse, en fait, d'impact extrêmement importante qui a influencé le monde politique. C'est un papier, certains d'entre vous le connaissent probablement, c'est un papier par Gertler et compagnie qui était dans le JPE, c'était dans les années, c'était 2000 quelque chose, ça s'appelait Water for Life, c'était sur la privatisation de l'eau en Argentine. Et c'était quelque chose, on n'avait pas toutes ces données satellitaires, ils utilisaient des données au niveau municipal, et ils ont montré, évidemment c'est un papier de JPE, donc c'est Chicago, ils ont montré que la privatisation de l'eau en Argentine réduisait la mortalité infantile. Okay. Mais ça, c'est de la double différence. C'est du JPI. Vous y croyez moins? Est-ce que vous croyez moins à ces résultats sur l'effet de la privatisation, sur la mortalité infantile en Argentine, que des résultats sur, prenons un truc complètement au hasard, la microfinance au Maroc, où lorsque vous changez 12 observations, il n'y a plus de résultats. Hein? Juste parce que c'est une RCT, on y croit plus? Soyons sérieux. Le bottom line ici, c'est quoi? Le bottom line, c'est que les données existent, Mais il faut essayer de combiner plusieurs sources de données. Les randomisations, c'est très bien, comme on dit méchamment, « Some of my best friends are randomizers ». Et je fais des randomisations moi-même. Mais comme plusieurs intervenants ont dit, la randomisation, ça marche très bien en santé, en éducation, mais on va quand même pas se mettre à randomiser des routes, ou à randomiser la privatisation des soins de santé, ou à randomiser des canaux d'irrigation. Il y a des choses qui sont trop importantes, qui sont trop importantes du point de vue social et du point de vue développemental pour être laissées à la randomisation. Et il existe des autres méthodes, en l'occurrence ici de la double différence, du diff-diff, qu'on peut facilement mettre en œuvre en combinant plusieurs sources de données. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire maintenant, en ce moment même, sur ce projet, sur les interventions en termes de schistosomiase. Merci.
Je mentionne juste avant de te laisser la parole que on a d'ailleurs une réflexion avec Jean-Louis dans le cadre de nos activités de la chaire Sahel. On essaye de mettre en place un travail sur ce type d'approche avec l'utilisation de données locales, potentiellement des données au niveau des administrations locales et les administrations des données lointaines pour l'évaluation dans des zones d'insécurité dans lesquelles on peut de moins en moins aller et là où inévitablement la randomisation n'a absolument pas d'actualité. Rémi.
Non, mais merci à Jean-Louis de nous rappeler aussi qu'y compris au sein de du milieu de la recherche académique, on a aussi plusieurs outils à notre disposition, ce qui est, je pense, du point de vue très important du point de vue de la recherche. Je pense qu'on va prendre une première salve de questions. Et puis j'interviendrai à la fin.
Je me permets de réagir par rapport à la dernière présentation qui a été faite par Jean-Louis Hacan. D'ailleurs, je salue le fait que Jean-Louis met vraiment en évidence le fait qu'il y a déjà des enquêtes qui sont réalisées de façon routinée par les instituts nationaux de statistiques et permettent, dans la majorité des cas, de disposer d'indicateurs clés sur lesquels on peut évaluer l'impact des projets. Mais par contre, je pense qu'il faut aussi insister sur le fait que pour pouvoir identifier des impacts, nous avons aussi besoin d'avoir des indicateurs sur lesquels on n'a pas beaucoup de bruit. Donc l'idée, c'est de pouvoir détecter l'impact du projet dans des données qui souvent sont bruitées. Et lorsque le projet a un impact beaucoup trop faible, c'est très difficile de pouvoir détecter l'impact du projet à partir de données d'enquête ménage qui ont été produites par les instituts nationaux de statistiques. Donc, ceci, ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas utiliser les données des instituts nationaux de statistiques, mais je pense qu'il faut aussi considérer la collecte de données nouvelles, mieux investir sur le développement de capacités de mesures qui soient moins bruitées pour pouvoir détecter les impacts même de petits projets. Cela peut passer par l'utilisation des images satellitaires qui sont certes moins bruitées mais qui ne sont pas parfaites non plus. Mais il me semble qu'il demeure important d'investir dans la collecte de données nouvelles.
D'autres questions?
Hi, just a quick remark to complement the last presentation. So first of all, it's nice to see someone else ranting about RCTs and the Nobel Prize. So the last couple of weeks it has been mostly me fighting with friends and colleagues. Maybe just in their defense, so the randomizers' defense, or at least these three who got the Nobel Prize, of course, they did more than just telling us that this is the gold standard. They also established an institution and basically mainstreamed the idea of independent, rigorous evaluation. But I fully agree that they pushed it too far, and I also fully agree with that statement about, it's too important to leave it solely to the randomizers. And just and now to complement this point, actually, so I've been involved in a number of evaluations. Half of them were RCTs, and we are still implementing RCTs, but half of them were diff and diff-based evaluations, and I think there is nothing like generally that you can learn more from an RCT, than from a different approach. And there are plenty of projects that cannot be randomized for different reasons, and we should still evaluate them, and we can learn a lot from it. And RCTs just solve one issue, and which is, you know, the internal validity. But of course, there are 10,000 problems that have to be solved, and there's no reason to believe that that they are generally superior.
Merci, Jörg. Autre question? Encore une?
Oui, Arthur Contejean de l'Agence internationale de l'énergie. Je voulais répondre un peu sur les propos aussi de Yann de ce matin, que je soutiens et qu'on soutient, je pense, grandement sur l'accès aux données et la disponibilité des données pour faire effectuer des analyses et pour pouvoir aussi permettre aux opérateurs de travailler dans les meilleures conditions possibles. Je voulais aussi rebondir sur le fait qu'il y a en effet des données qui existent et qui sont disponibles et beaucoup de choses de très grande qualité qui sont faites par beaucoup d'acteurs, notamment KTH, université suédoise avec laquelle on a travaillé sur les analyses géospatiales, a fait toute une analyse aussi et est en train d'utiliser pas mal de données géospatiales accessibles en open source pour avoir une estimation de où est la population située sur le continent africain et avoir vraiment une estimation précise de cette information-là qui est sous-jacente à toutes les analyses qu'on peut avoir à faire en géospatial. Et le modèle aussi qui a été réalisé et avec lequel on a travaillé dans l'Africa Energy Outlook est aussi disponible en open source sur Internet. Donc c'est aussi des informations et des outils qui sont, je pense, accessibles. Et c'est quelque chose qui a, à notre avis, aussi très important. Et à l'IOA, c'est vrai qu'on a travaillé aussi, on travaille aussi de plus en plus sur cet aspect-là, sur permettre d'avoir accès aux données qui sont collectées par notre agence. Et notamment, on va lancer l'année prochaine une plateforme un peu sur l'Afrique qui permet d'accéder à des données, des bilans énergétiques des différents pays africains. Quelque part dans le milieu de l'année prochaine. Et on a aussi pas mal, donc toutes les informations qui sont dans l'Africa Energy Outlook qu'on a présenté hier et aujourd'hui sont aussi disponibles sur Internet. Donc je vous invite à aller voir sur le site. On a aussi une base de données sur l'accès à l'énergie qui est disponible en open source sur notre site Internet. Et si vous avez la moindre question aussi, et si vous avez des suggestions ou des données qui vous intéressent, n'hésitez pas aussi à venir nous voir et on sera en mesure d'étudier les requêtes. Merci.
Est-ce que je vais relaisser peut-être la parole à si des intervenants veulent répondre ou réagir par rapport aux différentes.
Peut-être un petit point sur les histoires d'enquête. Si je reprends l'exemple de notre projet, donc c'est l'irrigation solaire au Burkina notamment. Donc on avait regardé ce qui existe en termes d'accès à des données publiques. Le fait que toutes ces données existent, ça c'est très bien parce que ça veut dire que le jour où on arrive à déployer 1000, 10 000, 20 000 pompes, on n'aura pas besoin de faire des enquêtes très précises, on pourra cibler des zones et puis comparer les zones traitées et les zones non traitées. Nous, notre difficulté aujourd'hui, c'est quand on en a pour l'instant 130 à installer, on n'a pas les financements pour en installer beaucoup plus. Donc soit l'AFD demain nous donne 10 fois plus, et donc on fait, au lieu d'en faire 130, on en fait un tout petit peu plus. Mais je pense que pour faire ça, il va falloir qu'on les convainque qu'il y a eu un vrai impact du projet, et donc pour ça, il va falloir qu'on collecte des données encore assez précises. Alors, la façon la moins chère possible, la façon la plus efficace possible. Mais aujourd'hui, on ne peut pas encore s'appuyer sur des projets de petite taille comme ça, sur des données standards publiées par les instituts de statistiques. Voilà.
D'autres réactions? Non? Non, moi, les deux petits mots que je souhaitais dire, effectivement, c'est ce que je retiens aussi, c'est la nécessité peut-être de mixer les approches. Qu'il existe déjà un certain nombre d'outils, de données disponibles qui sont peut-être sous-utilisées. Après, se pose quand même la question de l'accessibilité de ces données. Ce qu'un chercheur va avoir besoin, effectivement, ça va être des données au niveau individuel. Les grands changements actuels aussi, c'est la possibilité de géolocaliser ces données-là, qui nous permettent aujourd'hui, effectivement, d'avoir beaucoup plus de choses à réaliser à partir de cela. Et encore aujourd'hui, trop souvent, ces données-là ne sont pas accessibles. Tu as cité l'INSD, on a aussi travaillé sur des données de l'INSD où il a fallu aller récupérer manuellement ces données-là qui étaient effectivement pas directement accessibles. Et donc je pense qu'il y a un travail d'accès aux données qui est important. Un autre enjeu, à mon avis, qui a été un petit peu effleuré, c'est une question aussi de temporalité. C'est que là, entre les différents acteurs, la temporalité va être être très différente, y compris dans les besoins liés à l'évaluation. Le besoin du financeur va être quasiment immédiat. Celui qui met en œuvre le projet, on va avoir une forte pression, et il y a des exemples qui ont été cités, de montrer immédiatement un impact dès lors que le projet est mis en œuvre. Les chercheurs vont avoir un temps d'évaluation qui va être, lui, beaucoup plus long. Et donc, je pense qu'il faut à la fois pouvoir saisir ces différentes synergies entre les différents acteurs, c'est-à-dire que tout le monde a besoin, ça a été dit, d'une enquête baseline, de données, en tout cas, avant la mise en place d'un projet, sur lequel peuvent ensuite s'appuyer à la fois chercheurs, praticiens, financeurs, pour savoir un petit peu l'état des lieux et de designer un petit peu les programmes tels qu'ils vont intervenir. Et puis ensuite, il y a une temporalité qui va être différente et qui apportera différentes réponses à différents moments. Mais il faut savoir aussi reconnaître, et c'est aussi les incompréhensions peuvent parfois émerger de cela, que le temps de l'évaluation, du point de vue ici du chercheur, va être aussi peut-être beaucoup plus long que ce qui va être exigé par les autres acteurs. Voilà. Et puis après, dernière chose, avant de te laisser la parole, Jean-Louis, je ressens aussi la nécessité de mixer aussi les équipes entre les praticiens et les chercheurs, avec des approches qui sont aussi très différentes, mais qui vont permettre aussi de mieux comprendre quels vont être les besoins des uns et des autres, ce qui permettra sur le long terme aussi d'avoir des outils d'évaluation qui seront plus opérationnels. Et cela, évidemment, avant la mise en place des projets, ce qui semble aussi des choses dans lesquelles c'est mixer les équipes sur lesquelles on pourrait progresser. Voilà, Jean-Louis.
Ouais, c'était juste pour réagir aux très bonnes questions et interventions là qui viennent d'avoir lieu. Alors, on y soit qui mal y pense de dire que moi je suis en défaveur d'aller collecter des nouvelles données. Il y a des personnes qui collectionnent les timbres, moi je collectionne les données. D'accord ? Donc soyons clairs là-dessus. Par contre, avant de faire toute évaluation d'impact, quelque chose dont on parle peu souvent, d'ailleurs nous l'enseignons très mal généralement dans nos cours d'économétrie, en fait souvent on ne l'enseigne pas dans les cours d'économétrie, c'est qu'on doit faire des calculs de puissance. Alors on doit faire un calcul de puissance et comme vous savez, grosso modo, l'impact minimum détectable de toute évaluation d'impact, quelle que soit la stratégie d'identification, cet impact minimum détectable, donc on veut un impact minimum détectable petit, d'accord, pour pouvoir détecter des petits impacts. C'est quelque chose qui décroît dans la racine carrée de la taille, grosso modo, hein, dans la racine carrée de la taille de l'échantillon. Alors, regardons les budgets qu'on a à disposition pour collecter des nouvelles données et les budgets et même les petits échantillons relativement petits qui peuvent exister dans les enquêtes existantes. Je ne suis pas sûr si on fait la comparaison coût-bénéfice en prenant en considération la puissance statistique qui va ressortir de cela, qu'on va faire des nouvelles enquêtes est nécessairement quelque chose de bien. Est nécessairement quelque chose de bien du point de vue de coût-bénéfice, c'est toujours quelque chose de bien. Hein, je veux dire, les données, pour moi, c'est comme la maternité, je suis tout pour, quoi, genre c'est bon. Deuxième point. Juste vous donner rapidement un exemple de où on a dépensé énormément d'argent sur des enquêtes entre guillemets conventionnelles, halal, kasher, appelez-le comme vous voulez, et d'autre part l'utilisation de données satellitaires. Donc il y a quelques années, j'ai suivi pendant 7 ou 8 ans, j'ai suivi l'évaluation d'impact de l'INDH, qui est un programme au Maroc, l'Initiative Nationale de Développement Humain. La première phase de 2007, je pense, ils ont commencé à décaisser, les premiers 4 ans, c'était 1 milliard de dollars, la deuxième phase, c'était 2 milliards de dollars. Alors je travaille beaucoup en Chine, 1 milliard et 2 milliards de dollars, c'est une goutte dans l'océan, mais dans un pays comme le Maroc, 2 milliards de dollars sur 4 ans, c'est du pognon, ok? Donc, on a déployé une évaluation d'impact où on a suivi des, disons, conventionnelles, classiques, on a suivi des populations avec 3 enquêtes, ménages, c'était tous les 2 ans et demi à peu près, presque 3 ans, ouais, disons, 2 ans et demi. On travaillait avec la primature, l'argent, c'était pas un problème. 1,5 million d'euros de budget pour faire ces 3 enquêtes. On a fait de la double différence. En fait, c'était même pas de la double différence, c'était du RDD parce que le déploiement du programme fonctionnait. C'était un RDD. C'était en termes du taux de pauvreté dans une commune rurale. C'est la composante rurale de l'INDH au Maroc. Par la suite, juste pour m'amuser, après avoir fait cette évaluation d'impact, J'ai téléchargé les données satellitaires pour le Maroc. J'ai superposé la carte rastérisée du Maroc en termes des zones, des communes rurales. Et j'ai appliqué exactement la même méthodologie économétrique aux données satellitaires comme proxy pour l'activité économique. Hein ? Ça m'a pris, avec mon assistant de recherche, ça m'a pris, je sais pas, une journée et demie à peu près à faire. Plus ou moins, j'ai trouvé la même chose. Okay ? Et j'ai pas eu à dépenser $500,000 sur des enquêtes. Donc tout ce que je veux dire, c'est que souvent, moi, ce qui me fait peur, c'est que et je suis tout pour, hein. Encore une fois, ce que vous disiez tout à l'heure, je suis tout pour, et ce que Rémi disait, tout pour. Mais j'ai parfois peur qu'on finisse par ne pas évaluer certaines choses, parce qu'on n'arrive pas à trouver, parce qu'on n'a pas la chance d'avoir la primature du Maroc qui vous fait un chèque de $500,000 pour, ou 500 000 euros pour aller faire les enquêtes, alors qu'on pourrait le faire avec des données existantes, qu'elles soient d'enquête ou qu'elles soient satellitaires. Voilà.
Merci. Moi, j'aurais peut-être une question, parce qu'on a sur ce panel, on n'a pas d'agence d'électrification rurale, et on a quand même parlé beaucoup d'accessibilité de la donnée locale. Je serais assez intéressé de savoir si l'un des directeurs d'agence qui est ici aurait envie de réagir.
C'est le directeur général de l'agence d'électrification rurale de Mauritanie. Bien sûr, c'est une agence pionnière. La demande chez nous est importante. La méthode, nous avons adopté une approche dès le départ qui consiste à faire l'électrification rurale suivant des données. La première, c'est l'utilisation des kits solaires individuels. Et parce que la demande est très forte, et parce que les gens ne sont pas habitués à utiliser ce genre de service, et parce que nous tenons à les faire habitués à ce genre de service, on a opté pour un service vente pour les usagers. C'est pourquoi faire, c'est pour éviter les vols et éviter la vente, parce que nous donnons, c'est presque un service gratuit, mais au lieu de le céder immédiatement à l'usager, on a dit donc, on va lui céder ça sur 2 ans. On va lui demander de payer un petit quelque chose chaque mois pour qu'il se sente propriétaire. Il va bien s'occuper de son kit individuel. Nous avons un résultat très spectaculaire sur ce plan. Sur les 5000 kits que nous avons installés, sur les 3 premières années, nous avons un vol zéro. Vol zéro. Et on peut dire que ces 5000 kits fonctionnent aujourd'hui parfaitement bien parce que nous avons fait accompagner les usagers par une formation de techniciens par village, donc pour assurer la continuité du service. Bien sûr, l'autre volet, c'était l'électrification par réseau, par centrale hybride. Bien sûr, ça marche. Ce que j'ai à dire à propos de l'électrification rurale d'une manière générale, c'est une remarque que j'ai attirée depuis quelques temps, parce que je suis un peu ancien dans ce domaine. L'handicap aujourd'hui, en tout cas pour nous pays africains, c'est le financement. C'est pas la technologie. Je crois que la technologie est plus ou moins arrêtée. Les méthodes sont connues. Mais il y a le financement. Les gouvernements ne sont pas en mesure de financer cette électrification rurale. Les bailleurs de fonds ne sont pas aussi chauds, ne sont pas engagés que par les prêts. les prêts ne sont pas supportables par les usagers parce qu'ils n'ont pas la possibilité de payer ces prêts. Et le privé africain, c'est des jeunes entreprises, en tout cas le privé motivé dans du domaine, c'est des jeunes entrepreneurs. Ils ont la capacité technique, mais ils n'ont pas les moyens financiers. Sur ce, moi j'ai eu à comprendre que pour électrifier en Afrique, il faut une croisée de subventions. Une croisée de subventions, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que chacun mette quelque chose. Le gouvernement met quelque chose, les usagers mettent quelque chose, les donateurs donnent quelque chose à travers des subventions et non pas des prêts. Et bien sûr, s'il y a un privé qui serait intéressé, il faut qu'il soit aussi... Ils mettent quelque chose même sur la méthode de paiement. C'est, en tout cas, c'est la conclusion, je crois, vers laquelle nous souhaitons que les gens qui font des recherches dans ce domaine orientent la réflexion, parce que c'est ça le vrai problème.
Je vous remercie.
Merci beaucoup. C'est effectivement très important de ne pas oublier l'environnement subvention qui a été évoqué d'ailleurs hier dans la journée. Sur les données, peut-être.
Merci beaucoup. Je remercie Jean-Louis pour sa brillante exposé. Je suis Jean-Francis Thiepo, directeur général de l'Agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie. Je pense que pour la question des données, c'est là surtout que je vais focaliser mon intervention. C'est une réalité que aujourd'hui, les pays africains ne sont pas à un niveau zéro en termes de données. Mais c'est également une réalité que je parlerai de l'expérience du Bénin, qui est quand même assez édifiante. Et nous sommes partis dans le cadre de la mise en œuvre d'un nouveau cadre réglementaire pour l'électrification au réseau, et pour lequel nous avons besoin d'une planification. Nous avons besoin donc de pouvoir donner un statut à chaque localité du pays pour pouvoir donc faire la part des choses, déterminer toutes les localités qui vont être éligibles au réseau par rapport à celles qui vont être éligibles au réseau. Et pour l'instant, pour la première phase, je crois que ce gros travail a été fait par le cabinet IED qui est représenté ici dans la salle. L'expérience que nous avons vécue, c'est que l'IED s'est basé d'abord dans un premier temps sur les données obtenues par l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique. Et le résultat obtenu, c'est que nous avons fini par obtenir environ 3400 villages au total au plan national. Et par la suite, on a donc demandé aux promoteurs privés qui étaient intéressés à mettre en place des mini-réseaux, qui sont allés dans les localités, qui sont venus et les données sont totalement biaisées. On n'a pas la suite essayé de dire, bon, il faut aller également exploiter les données de l'Institut national géographique, qui également utilise des outils beaucoup plus perfectionnés et identifie les localités en termes de points géographiques. Cette fois-ci, on est allé à 5000. Et donc, ça a suscité la curiosité du ministère de l'Énergie et de l'Agence. Et on a dû convoquer une grande réunion où tous les acteurs, tous ceux qui en savent quelque chose, doivent se réunir pour pouvoir trouver une solution à cette situation. Alors, à la suite, à l'issue de cette réunion, il s'est avéré que ni le ministère de l'Intérieur, qui également avait des données sur la loi sur la décentralisation, donc qui déterminait les unités administratives locales, ni l'Institut national de l'analyse économique, ni l'Institut géographique ne pouvaient donc satisfaire aux besoins dont qui nous étaient nécessaires dans le cadre de notre projet au niveau de l'énergie, parce que tout simplement, aucun d'eux ne regardait donc ces localités du point de vue électrique. Donc, il est question, pour ce que moi je sais, que je peux dire ici, c'est vrai, on n'est pas à un niveau zéro, mais il est question d'actualiser, de s'en servir, mais du point de vue électrique. Parce que ces intéressés ne sont pas préoccupés, n'ont pas les mêmes préoccupations que les ingénieurs, que les professionnels du secteur de l'électricité. Ou, je donne un exemple par hasard, lorsque nous voulons parler d'une localité ou d'un village, au niveau du ministère de l'Intérieur, il parle d'unité administrative et qui peut regorger en son sein plusieurs localités qui parfois se retrouvent à 10 à 15 kilomètres. Mais eux, du point de vue ministère, sécurité, voient plutôt une unité administrative. Les autres voient plutôt qu'il y a beaucoup de hameaux à l'intérieur, mais ne peuvent pas vous fournir des données qui vous sont très nécessaires. Par exemple, les distances du point de vue électrique, les distances, vous le savez, c'est très important pour nous. Et bien évidemment, les autres données démographiques, économiques, sociales, administratives sont disponibles, mais il y a beaucoup d'autres choses qui manquent. Donc il revient à ce que lorsque nous voulons nous en servir de ces données, il faut vraiment avoir un œil beaucoup plus électrique pour pouvoir regarder ces données-là afin de ne pas avoir à tomber sur des déceptions. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Et là, on est complètement dans le cœur du sujet, hein, dans le sens où des choses existent, mais elles sont pas parfaites. Et c'est pas la peine d'aller chercher très loin si on sait qu'on peut utiliser ces données. Maintenant, elles ont probablement besoin de compléments, et ça fait partie de la réflexion. Je pense qu'on va. Sénégal. Voilà. Oups. Et je me disais bien que IED prendrait la parole. Sénégal et IED, et après on ira manger.
Merci. Moi, c'est Baba Diallo, directeur général de l'Agence sénégalaise de l'électrification rurale. Donc, à l'instar de mon collègue du Bénin, je voudrais juste dire que au niveau du Sénégal, nous avons l'Agence nationale de statistiques et de la démographie qui nous donne les données de base de l'ensemble des localités urbaines et rurales. Donc, nous avons la base de données complète des localités rurales. Il s'y ajoute, avec l'expérience et les capacités de l'Agence sénégalaise de l'électrification rurale, on a également un système d'information géographique où nous avons le système électrique tel qu'il existe, mais aussi tel qu'il est projeté à court et moyen terme. Ce qui nous permet, quand nous avons besoin de faire de la planification, de pouvoir donner la situation géographique complète de l'ensemble des localités, à savoir... suivant les critères que nous utilisons pour un certain nombre de projets, si nous voulons faire du off-grid au-delà de 7 km du réseau existant ou du réseau projeté, quelles sont les localités qui sont éligibles. Ensuite, s'il y a d'autres données démographiques, à savoir population, nombre de ménages, là également, avec les données de l'Agence nationale de statistiques, nous l'avons. Maintenant, ce qui se passe, c'est l'analyse des impacts ou le suivi évaluation. Là, nous avons travaillé avec l'ONG Enda Energy et la Banque mondiale pour développer un outil de suivi évaluation. Donc, l'outil, il est terminé, validé et opérationnel. Nous devons rentrer dans une phase plus active de collecte et de suivi des impacts. C'est vrai que on a mis beaucoup de paramètres dedans, ce qui rend complexe le travail. Parce que l'Agence de l'électrification a son cœur de métier, à savoir développer l'accès, comme on l'a dit hier, l'ODD numéro 7, et ce qui ne laisse pas beaucoup de place pour mobiliser des ressources, pour trouver du temps, pour mener ces activités-là. Donc, on a le système de suivi évaluation, l'outil est développé, il est en place. Maintenant, il reste à aller beaucoup plus loin. Choisir soit par sondage, soit par échantillonnage, un certain nombre de localités ou un certain nombre de technologies, aller sur le terrain, faire des enquêtes de façon régulière et voir comment ça évolue. Donc actuellement, nous nous concentrons plus sur l'électrification et l'évolution des taux d'accès, l'évolution de la desserte, mais nous avons développé l'outil qui nous permet de faire le suivi évaluation et de mesurer les impacts de nos actions, notamment l'usage productif de l'électricité en milieu rural, comment ça permet de transformer les conditions de vie des ménages et des populations de façon générale. Merci.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Je voudrais juste commenter un petit peu et faire quelques remarques sur l'existence des données et puis l'utilisation des données satellitaires, on est, enfin, en tant que praticien de l'électrification rurale et de l'électrification rurale décentralisée, on est complètement d'accord là-dessus, mais le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, c'est l'évaluation des projets d'électrification rurale décentralisée. Et pour faire une évaluation un peu statistique large avec des données satellitaires, on a un peu un problème de granulométrie pour aller plus spécifiquement sur ces projets, parce que j'aimerais bien qu'on en soit au même stade qu'une étude sur la malaria, mais malheureusement on n'a pas autant de projets, donc ces analyses sont un peu complexes. Pour ce qui concerne la collecte des données, on a dû faire, nous, des schémas d'électrification générale et d'électrification rurale, peut-être dans une vingtaine de pays africains aujourd'hui. Et on est complètement d'accord avec le fait que beaucoup de données existent déjà. Donc, dans la méthodologie que nous préconisons, avant même de faire une prévision de la demande, on cherche à identifier les localités à électrifier, en décentraliser ou pas, ce qui exige de collecter des données intersectorielles, comme les collègues viennent de le dire ici, et donc ça implique de travailler avec un certain nombre d'agences. Et les choses, à partir de ce moment-là, se complexifient, déjà d'un point de vue technique, parce que, bien souvent, telle agence va travailler par province, l'Institut national des statistiques aura une certaine manière de faire la nomenclature des villages, qui ne sera pas la même que le ministère de la Santé. Donc simplement réussir à réconcilier toutes ces bases de données représente déjà un travail relativement important d'un point de vue purement technique. Ensuite, avoir l'accès à ces données, je rejoins complètement la méthode qu'Henri préconisait tout à l'heure. Nous, dans notre expérience, bon, on va pas se raconter des histoires de ce qui se passe dans la réalité du terrain, mais les données ont une valeur, comme on a dit. Donc, quand on travaille sur un projet d'électrification et qu'on veut aller chercher des données d'un autre secteur, c'est pas toujours si facile que ça, quoi. C'est-à-dire que l'agence de l'autre secteur va dire « Ah oui, mais pourquoi ? Mais vous comprenez, ça a une valeur. Faut me payer officiellement, pas officiellement. Je veux une lettre du Premier ministre. » C'est quand même quelque chose de relativement compliqué. Et moi, je trouve qu'on arrive à avancer là-dessus, que si on se donne le temps au départ d'une démarche intersectorielle, en impliquant justement toutes les différentes parties prenantes, et qui va être peut-être les prémices justement de ces histoires d'impact, c'est-à-dire de bien montrer que on est dans une démarche où si, ce n'est que si on partage les données au départ, qu'on arrive à faire une espèce de baseline au départ, que derrière on pourra avoir un impact. Donc c'est un peu dans la démarche de dire que beaucoup de choses existent, mais que le big data, etc., c'est génial, mais que l'humain, enfin en tout cas nous dans notre pratique aujourd'hui, reste quand même au cœur du truc. C'est-à-dire vous envoyez une équipe sur le terrain qui a zéro capacité de relations humaines, je peux vous dire que la base de données que vous sortez, elle vaut pas grand-chose, quoi. Hein. Ça c'est vraiment une certitude. Bon, je suis désolée d'être aussi terre-à-terre, mais c'est quand même un petit peu la réalité des choses. Par rapport au coût des master plans, bon. Moi, je suis complètement d'accord que ça peut paraître beaucoup. Mais ce que je regrette beaucoup, c'est que une fois qu'on a fait cet investissement, et nous, on l'a fait plus d'une fois, de constituer ces bases de données, etc., le problème, c'est qu'après, il faut qu'elles vivent. C'est-à-dire que on a fait un magnifique schéma directeur avec plein d'indicateurs, tout ce qu'on veut, etc. On a déterminé les zones hors réseau, les zones en réseau, mais ce qui serait bien, c'est simplement de mettre à jour cette base de données au bout de 2 ans. Parce que aussi, pour une raison X ou Y, et on va pas se voiler la face, on a fait un schéma de planification, mais il peut y avoir plein de raisons, des raisons liées à la sécurité, à une maladie, des priorités politiques, tout ce qu'on veut, qui font que les priorités vont changer. Donc c'est important de le mettre à jour comme de mettre à jour l'électrification. Et pour moi, ça, c'est beaucoup plus difficile à financer que le financement au départ d'un programme d'électrification rurale. Alors, ça va avec une question d'argent, mais aussi avec une question de capacity building, et puis que les agences qui sont porteuses de ça soient d'accord, mettre les moyens, etc., etc. Et je vais pas vous parler du fait, puisqu'on est là pour se dire la réalité des choses, qu'il y a parfois aussi des conflits entre bailleurs, quoi. Que moi, je contrôle le schéma directeur et je vais pas le partager. C'est aussi quand même une réalité aujourd'hui dont il faut tenir compte. Et dernièrement, sur l'histoire de la prévision de la demande, bon, nous, pour être aussi un acteur privé, une prévision de la demande sur le long terme, sur un groupe de villages, oui, on peut avoir un certain nombre de certitudes, mais quand on cherche à faire de l'électrification décentralisée, encore aujourd'hui, on va chercher la perle, quoi. On va chercher la localité ou la zone où il n'y a pas de problème d'insécurité, où quand même on peut avoir un petit peu d'accès, où quand même il va y avoir un petit peu d'usage productif, etc. Et donc, par définition, je pense que c'est très compliqué d'avoir une modélisation statistique de comment la demande va se développer. Nous, actuellement, on est en train de travailler, je pense avec l'IFC d'ailleurs, en RCA. Bon, c'est quand même très difficile, hein. Il y a des localités qui paraissent super porteuse, mais il y a tellement de facteurs externes que vraiment avoir une certitude sur une prévision de la demande, je sais pas honnêtement si c'est véritablement faisable. Et donc du coup, si on veut que le privé mette son argent là-dedans, se pose effectivement la question du partage du risque sur cette prévision. Et par rapport à ça, je trouve que certains instruments dont vous parlez beaucoup, qui est d'aider le privé à trouver des moyens d'aider le privé à couvrir des deltas liés à l'évolution de la demande, c'est vraiment quelque chose qui permettra au secteur privé de mettre son argent sur la table. Voilà.
Je pense que vraiment réaction très très rapide, sinon vous allez vous faire lyncher, hein.
Merci. Je vais faire deux trois réactions très rapides sur la remarque de l'IEA. Il y a de la donnée qui est ouverte, les algorithmes sont open source, ok, oui, absolument. Je pense que c'est quand on regarde différents niveaux de granularité. Pour faire de l'analyse pays, stratégie, continentale, telle que vous le faites, hein, et telle que je l'ai fait moi-même avec Marc et son équipe, il n'y a aucun problème. Quand on passe au niveau que j'appelle investment grade, c'est là où on doit vraiment modéliser et mettre l'argent sur la table, là, je suis pas vraiment certain qui est la donnée. Nous, on doit aller la chercher, la donnée dans les pays. Donc, j'ai pas la même appréhension que Jean-Louis, par exemple. La remarque de notre collègue du Bénin et de Jean-Louis montre aussi quelque chose que je trouve très important et que notre collègue vient de mettre à jour, c'est l'intersectorialité. C'est-à-dire que finalement, on trouve qu'un dataset sur la malaria, encore une fois, au Nigeria, par exemple, nous a permis de savoir si les villages étaient électrifiés, d'avoir un proxy sur la demande. Et finalement, c'est important pour moi, dans les pays, d'avoir une équipe et des outils informatiques qui sont autour des secteurs, enfin qui sont cross-sectoriels. Donc ça peut être fait par la primature, par exemple, qui regroupe toutes ces données. La donnée trouve sa vraie valeur que dans sa superposition, pour moi. Le Malawi, par exemple, un des pays les moins développés, a une approche très innovante là-dessus et peut être un modèle. Sur l'évaluation et le suivi, c'est assez lourd. Je me demande, et je prends l'exemple du Togo avec qui on a beaucoup travaillé, par exemple, est-ce qu'on ne pourrait pas capitaliser sur cette digitalisation et tous ces smart meters, par exemple. Au Togo, le gouvernement demande à ses opérateurs mini-grid et Solar Home System d'ajouter un protocole machine-to-machine. Ça entraîne un léger surcoût sur l'investissement au départ, mais en retour, l'opportunité que ça ouvre, c'est d'avoir de la donnée jour par jour de la consommation, de l'évolution de ce marché, et ça, pour moi, en termes de suivi et évaluation, c'est un petit surcoût, mais c'est très efficace. Et finalement, sur la demande et sur la prévision, je suis d'accord, c'est très difficile aujourd'hui de faire de la prédiction. Pour moi, ce qui est important, c'est l'harmonisation des formats et des outils de collecte de données dès le départ, parce qu'un jour on aura une masse critique qui nous permettra d'utiliser ça comme en tant que training data et d'avoir un référentiel qui nous permettra de faire de la prédiction. Et donc pour moi c'est pas à court terme, c'est à moyen long terme, mais il faut commencer dès aujourd'hui à standardiser, à harmoniser ces outils de collecte. Merci.
Merci beaucoup et je pense qu'on va arrêter là. Merci à tous pour vos interventions.